Chapitre 83. Immonde, l'œuvre s'intitulait « La joueuse d'échecs ». Face à un échiquier centré sur une table en verre, l'écorché réfléchissait, ses mains posées de part et d'autre du plateau en bois, les deux globes oculaires rivés sur la partie en cours. Son cerveau luisait dans sa boîte crânienne ouverte. Son visage suggérait un masque vénitien détaché avec grâce du reste. Son dos était comme épluché, chaque pan de peau et de muscles écartelé tel des ailes. La colonne vertébrale brillait, semblable à un grand serpent d'ivoire. Gabriel s'effondra à genoux. Ses doigts vinrent effleurer les phalanges froides, les fleuves des veines. Il ressentit l'immensité du vide empoignant désormais chaque cellule de cette chose abominable qui, un jour, avait été son enfant. Il scruta le masque décharné, reconnut des formes familières, une manière de se poster et de méditer, la pliure de la lèvre. C'était elle, bien elle. Et en même temps, ce n'était pas elle. Juste de la matière organique plastifiée, impossible à regarder. Un modèle dépouillé de son eau et gonflé de silicone. Y chercher une trace d'humanité, c'était se heurter à l'effroi glacé d'un épouvantail. Il se redressa quand le souffle brûlant de la colère lui ravagea la tête, scruta encore la créature, baissa les yeux vers l'échiquier. L'immortel de Kasparov. Tout était pensé dans les moindres détails, mais personne n'avait remplacé la tour en bois blanc manquante, celle-là même piochée au fond de l'estomac devant Dagershvitch. La preuve que le Russe était un jour passé par ici. Gabriel courut jusqu'au couloir, la gorge gonflée des sanglots qu'il retenait. Non, non, non. 12 interminables années à être touché, observé, photographié, à être promené d'exposition en exposition sans jamais reposer en paix. Il se retrouva devant le tourniquet du bas, l'enjamba, atterri dans le couloir vide de l'accueil, tamisé de veilleuses qui projetaient des cônes bleutés sur le sol. Il devait y avoir des alarmes dans un tel bâtiment, mais elles n'avaient vraisemblablement pas encore été enclenchées. Dmitri Kalinine était donc encore là, derrière l'une de ses portes. Sans bruit, Gabriel les ouvrit les unes après les autres, salle de conférence, salle de projection. 5 marches se matérialisèrent dans la pénombre. Il les descendit, se faufila dans un autre couloir plus étroit, doucement éclairé lui aussi. Il retenait son souffle quand il perçut une lointaine mélodie. Un air de musique classique, du piano. Il se laissa guider par ses notes, s'arrêta devant un lourd battant métallique. Un boîtier était accroché à hauteur d'homme, certainement un système de sécurité. Inactif, semblait-il, puisque le voyant était vert. Il tourna la clé qu'on avait laissée dans la serrure. En poussant la porte, il vit qu'elle donnait sur l'extérieur, plus précisément sur un terrain bétonné, à l'arrière du bâtiment. À l'évidence, une issue destinée au personnel, qui permettait de circuler sans passer par l'accueil. Il referma en verrouillant et poursuivit son chemin. Les notes s'enchaînaient, légères. Il se glissa dans une salle où le corps intact d'un homme reposait dans un cercueil transparent et saturé de liquide visqueux, couleur groseille. Avec un timide ronflement, une pompe aspirait les fluides dans des tuyaux, les remplissant d'un côté avec un produit, les vidangeant de l'autre dans une cuve d'où jaillissait une forte odeur d'acétone. Le tout automatisé et contrôlé par un ordinateur. À droite de la cuve, une table en acier, une lampe cyalitique à double foyer, du matériel chirurgical. Gabriel reconnut les tissus et les draps bleus entassés dans un coin, du même type que ceux sur les clichés d'Abergel. Sans doute celui-ci avait-il immortalisé les cadavres ici, avant que Kalinine se charge de la suite. Une pure race d'assassins. Nocturne de Chopin. La mélodie à la tristesse envoûtante s'échappait de la pièce juste à côté. Un ray de lumière filtrait par l'entrebâillement pour s'écraser sur le linoléum jusqu'au pied de Gabriel. Le monstre devait officier de l'autre côté du mur. Il s'avança silencieusement jusqu'au seuil de la porte entrouverte et se figea. Au milieu de cette autre salle, une vision d'horreur. Deux corps de femmes, nus, rasés, reposaient assises sur un cube d'acier, dos à dos, dans une parfaite symétrie. Une vingtaine d'années, même taille, même corpulence. Si la première était encore intacte, l'autre était en train d'être dépecée, la peau de son ventre déroulée devant elle. Des centaines de fils, d'aiguilles, de clous et de vis les maintenaient dans des positions de marionnettes, bras levés, têtes inclinées, mâchoires écartelées. Il en était sûr, elles étaient les remplaçantes des cadavres de l'entrepôt. De pauvres victimes sans doute kidnappées par le Russe. Les notes échappées des sillons d'un 33 tours en rotation sur son tourne-disque semblaient incongrues. Gabriel sentit un courant d'air lui effleurer la nuque, un feulement qui l'alerta juste avant que le scalpel s'abatte en direction de sa moelle épinière. Il eut à peine le temps de faire volte-face, la lame dessina un long trait sur sa joue gauche. Dmitri Kalinine profita de sa douleur pour planter son instrument dans la parka neuve, à 2 centimètres de la gorge, atteignant finalement l'épaule droite. Gabriel hurla et projeta de toutes ses forces son adversaire sur le côté. Le professeur alla heurter le cube, son borsalino vola dans les airs. L'écorché, déséquilibré, bascula dans le vide. Les fils qui la retenaient la firent gigoter et elle parut soudainement reprendre vie. Gabriel se rua sur Kalinine qui se redressait et de toutes ses forces se mit à le cogner. Les corps dansèrent autour d'eux, tels des acrobates fous. Les deux hommes s'écrasèrent au sol. Gabriel, rapidement au-dessus de son adversaire, frappa le visage du professeur des deux poings des lingories enragés. Il ne souffrait même plus de son épaule.
« Combien ? Combien t'en as tué ? Combien de cadavres pour nourrir ta putain de folie ?»
Son propre sang goutta de sa joue, se mêla à celui de Kalinine dont la résistance faiblissait déjà. L'os du nez du vieil homme avait dévié sur le côté. Il aspirait l'air bruyamment, la bouche grande ouverte, ses dents rouges et luisantes. Il baragouina des mots en russe que Gabriel ne comprit pas, et malgré la douleur, afficha un sourire sadique. Ses yeux brillaient de quelque chose qui échappa à son adversaire. Ce n'était pas le regard d'un homme effrayé par la mort. Gabriel précipita ses mains gantées sur la gorge de ce taré et serra. Il colla son visage à 10 centimètres de celui du fameux DK, quand les pupilles noires de ce dernier se voilèrent et que les petits vaisseaux sanguins éclatèrent autour des iris.
« Pour ma fille et tous les autres !»
Le corps fut parcouru de violents soubresauts avant de s'affaisser. Gabriel agita le cadavre avec une hargne telle que la tête forma un angle improbable avec le cou. Puis il s'écrasa sur Kalinine, pleurant dans le creux de son épaule. Combien de temps ? Il l'ignora, mais quand il se redressa, il eut un vertige. Il ôta son blouson, son pull, se dirigea vers l'évier de l'autre salle et rinça la plaie d'un bon centimètre qu'il avait au niveau de la clavicule. Elle se remit à cracher du sang, mais pas autant que si une veine ou une artère avait été touchée. Il fouilla dans le matériel, dénicha des compresses hémostatiques, des bandages, parvint à se fabriquer un pansement. La blessure sur sa joue était superficielle. Il survivrait. Il se laissa choir contre le mur, les bras le long du corps, les yeux dans le vide. C'était terminé. L'hydre était vaincue. Elle ne kidnapperait plus, ne tuerait plus, ne dépecerait plus. Elle ne nuirait plus à personne. Sa place était désormais en enfer, au milieu des flammes. Gabriel se releva, récupéra des bidons d'acétone qu'il renversa abondamment sur le corps du professeur ainsi que sur le sol. Il observa l'aquarium rempli à ras-bord de milliers de litres de ce liquide inflammable. Ce serait une vraie bombe lorsque le feu l'atteindrait. Il remonta le couloir, le hall, gravit l'escalier et se retrouva face à la joueuse d'échecs. C'était la dernière fois qu'il la voyait. Aussi inhumaine fut-elle, l'émotion l'étreignit. Il effleura sa main glacée. « Je t'aime, Julie. Je t'aime tellement. » Les larmes aux yeux, il vida le reste du bidon sur le sommet du crâne ouvert. Il saisit le briquet dans la poche de son jean. Du pouce, Il ôta le couvercle dans un déclic et fit surgir la flamèche qu'il approcha de la flaque par terre. Une boule de feu bleutée vira au rouge vif. Elle grimpa sur les jambes décharnées. Lorsque la chaleur empoigna le torse, il y eut un chuintement, un bruit infâme de matière en fusion qui ressembla à un cri à peine perceptible. « Pardonne-moi. » Les flammes partaient déjà à l'assaut du plancher. Il retourna dans le laboratoire et, entre les cadavres dansant au bout de leurs fils, embrasa le corps imbibé de Kalinine. Puis il franchit la porte métallique, contourna le bâtiment par la droite, courut dans la rue face au parking. Au moment où il montait dans sa voiture, une explosion suivie d'un fracas de vitres brisées fit vibrer le sol. Des diables oranges surgissaient des ouvertures du plastinarium. Gabriel regagna la route et se mêla au flot des véhicules sans direction précise. S'éloigner d'abord. Se soigner dans une chambre d'hôtel ensuite, avant de reprendre l'avion, sans doute le lendemain. Quitter ce fichu pays. Improviser la suite, au jour le jour. Il ne savait pas s'il s'en sortirait, mais peu importait. Dans le trou noir de sa mémoire, il se souvenait comme si c'était hier de cette phrase prononcée 12 années plus tôt, ce soir où il avait noté les noms des clients de l'hôtel de la falaise dans le registre. « Je te retrouverai, Julie. Je te jure que je te retrouverai. » C'était désormais chose faite. Il avait retrouvé son enfant. Il les avait libérés, elle et les autres martyrs, pour l'éternité.